Un sol majeur.
Un sol majeur.
Ce qui passionne Trinh Xuân Thuan derrière son télescope, c'est l'histoire de cet hiver nucléaire qui a fait disparaître un jour les dinosaures de la Terre, page 236 de son dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. Mais c'est aussi l'histoire de la rose, qui est rose alors que la lumière du soleil qui s'y reflète est blanche, page 204. Et c'est aussi de savoir que le ciel peut un jour nous tomber sur la tête, page 235, et pourtant vous n'avez rien d'abras raccourci. On peut pas dire ça. Alors est-ce que oui ou non? Nous, petits terrestres, nous devons craindre qu'un jour un astéroïde entre en collusion avec la Terre. C'est quand même une vraie question, ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a des collisions de grands astéroïdes et avec la Terre qui ont façonné et modifié profondément la vie sur Terre. Et comme vous l'avez mentionné très justement, donc il y a 65 millions d'années, il y a eu un grand astéroïde de la taille de Paris, hein, 10 kilomètres, qui est tombé sur Terre. Et qui a déclenché non seulement la mort des dinosaures, mais des trois quarts des espèces vivantes sur Terre à ce moment-là. Alors, c'était pas l'impact direct qui a causé leur mort, mais en fait, c'était un nuage de poussière, donc il s'est soulevé par cette énorme collision. Et donc, le vent a dispersé ces poussières tout autour du globe, ça a coupé la lumière du soleil, la Terre s'est refroidie. Et donc, les plantes ne pouvaient plus croître. Donc, les espèces sont mortes parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Mais donc, nos ancêtres, c'était des petits rats qui avaient échappé à l'Holocauste. Donc, et donc, qui ont donc, se sont proliférés. Donc, ils sont des mammifères. Donc, nos ancêtres les plus directs. Et donc, qui a mené à nous. Donc, en fait, sans les astéroïdes, peut-être les dinosaures régneraient encore sur Terre, nous ne serons pas là pour en parler. Alors, la question plus directe, est-ce que ça menace, est-ce que nous vraiment nous risquons de voir encore le ciel nous tomber sur la tête demain? Je ne pense pas que c'est pour le futur immédiat. Vous voyez, la dernière collision, c'est 65 millions, donc nous avons le temps d'y penser.
Alors, professeur, juste pour éclairer nos lanternes, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de lumière hein, en vous recevant.
Tout à fait.
À propos de lumière, il y a cette phrase assez troublante dans la présentation de votre dictionnaire, c'est « plus on voit loin ». Plus on voit tôt.
Voilà, ça c'est en fait la clé de l'astronomie. Vous savez, l'astronomie est une science observationnelle. Hein. On se contente d'observer l'univers. On ne peut pas fabriquer, concocter des étoiles en laboratoire ou concocter le Big Bang dans nos salles d'expérience. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de contempler l'univers et le lien entre l'homme et le cosmos, c'est la lumière. Mais la lumière met du temps à nous parvenir. Vous voyez, les gens, au début, comme Descartes, pensaient que la propagation de la lumière était instantanée, mais on a découvert qu'en fait, elle se propage à une vitesse finie, la plus vite possible dans l'univers, 300 000 km par seconde. Donc, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous faites un tic de la main et c'est déjà 7 fois et demi le tour de la Terre. Mais, à l'échelle de l'univers, c'est une vitesse de tortue. Donc, ça veut dire qu'on voit toujours l'univers avec un peu de retard. On voit la Lune une seconde après, le Soleil 8 minutes après, la plus proche étoile 4 années après, la plus proche galaxie qui est Andromède, semblable à Voie lactée, 2 millions d'années après. C'est-à-dire la lumière qui quitte Andromède maintenant est partie quand les premiers hommes marchaient sur Terre. Vous voyez? Et ainsi de suite, on remonte le temps. Et donc, voir loin, c'est voir tôt. Et donc, les télescopes sont des machines à remonter le temps. Et c'est comme ça que l'astrophysicien reconstitue l'histoire cosmique de nos origines.
Bon, on va remonter le temps jusqu'à vous, jusqu'à votre histoire. Et ça, je ne suis pas sûr que ça vous passionne, les histoires de double culture.
Oh, si, quand même. Non. Je suis quand même à la confluence de trois cultures. Et pour moi, ça a été toujours une grande source de richesse. Donc, je vois les biens et les peut-être ce qui est moins bien dans toutes les cultures. Et donc, je choisis en fait le meilleur de chaque culture. Moi, je pense que c'est une richesse c'est d'avoir plusieurs cultures, d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs perspectives.
Vous nous le gardez au chaud, ça. C'est pour tout à l'heure. On va revenir sur ces questions. Et puis, on va se rapprocher tout de suite de votre adolescence pleine de cheveux. De cheveux longs, j'imagine. Vous étiez hippie alors, on n'a pas eu la réponse tout à l'heure.
Non, j'étais plutôt sérieux. Je ne pense pas que j'étais vraiment hippie parce que pour moi, c'était vraiment les études qui comptaient à ce moment-là. Ouais. Vous voyez, donc bien sûr, j'étais pris dans les mouvements politiques et sociaux de l'époque des années 60. On ne peut pas c'est vivre en Californie en plein milieu de ce tourbillon des idées qui changent, etc., des gens qui veulent réformer la société, etc. Mais quand même, je pense qu'à ce moment-là, mon but principal, c'était toujours donc d'avancer vers mes études de physique et d'astrophysique plutôt que faire de la politique. Parce que bon, le temps est limité, je savais. Donc, on ne peut pas se disperser trop.
Alors, vous aviez quand même le temps de... Pour le fun, on va dire. Il y a les Shadows dans votre programme en sol majeur. J'imagine que c'est pendant cette période-là que vous l'écoutiez.
Oui, pendant l'adolescence au Vietnam, en même temps que Françoise Hardy.
Ah, au Vietnam.
Au Vietnam, au Vietnam.
D'accord, on l'écoute, les Shadows, dans votre programme.
Oui, ce sont mes guitaristes favoris.
The Shadows en sol majeur et dans le programme de Trinh Xuân Thuan, arpenteur du cosmos, né au Vietnam et embrassant une carrière d'astrophysicien aux États-Unis et de temps en temps une maman à Paris.
Dans quelle langue dites-vous votre alphabet ?
Dans les trois langues que je connais parfaitement bien. Donc, dépendant de la situation, hein. Si je suis en France, je le dis en français, si je suis en Amérique, en anglais, et puis... Si je parle à des Vietnamiens, Vietnamiens. Donc c'est vraiment dans mon cerveau va de l'un à l'autre sans effort maintenant. Vous voyez, c'est vraiment naturel. Donc je m'aperçois même pas que je parle une langue ou une autre. Donc mon cerveau s'adapte en fonction.
Vous êtes un cerveau exceptionnel, faut bien le dire quand même. Hein. Sinon vous écrivez toujours en français.
Tout à fait. J'ai grandi avec les auteurs français et c'est là où je sens le mieux la musicalité des mots. La sonorité des mots, parce que pour moi, justement, le son, c'est une émission sol majeur en musique, le son des mots m'importe beaucoup. Vous voyez, je relis, j'écris une phrase et puis je relis pour voir comment elle sonne et je le sens mieux en français. Je sens moins bien en anglais. En anglais, pour moi, vous voyez, c'est une langue scientifique parce que j'ai appris toute ma science aux États-Unis. Et donc, quand j'écris des articles scientifiques, bien sûr, je l'écris en anglais naturellement. Mais quand je fais des textes littéraires, c'est le français qui me vient naturellement à l'esprit. Parce que pour moi, c'est très important quand j'écris des livres de vulgarisation scientifique pour le grand public que non seulement je communique l'information scientifique qui peut être austère et aride de temps en temps. Et donc, il faut que je lui donne un aspect ludique, quelque chose qui lui donne plaisir. Et donc, je pense que ça, c'est le style et peut-être la poésie de la langue. Et j'essaie de mettre ça dans le texte pour que le lecteur ait du plaisir. Et comme ça, il absorbe la science avec un côté ludique en même temps.
Et le vietnamien, alors, dans tout ça ?
Le vietnamien, peut-être... moi, je le parle, bien sûr, à ma maman, à mes sœurs, etc., mais vous voyez, j'ai fréquenté des lycées français, donc je sens moins bien de nouveau la sonorité littéraire. Hein.
Ah, c'est plus étranger pour vous.
Oui, c'est-à-dire pour
que
moi,
la sonorité française.
Oui, c'est une langue que je parle, Mais j'arrive pas à composer, vous voyez, les grands vers vietnamiens, les grands poèmes vietnamiens, bien sûr, parce que bon, ça, il faut vraiment maîtriser la langue, la sonorité des choses et étudier les grands auteurs. Hein. Je pense que c'est par l'exemple. C'est,
vous avez ramené un poème quand même en vietnamien.
Oui, là. Oui, et c'est un des grands poèmes que je pense que tout écolier vietnamien, que tout vietnamien connaît par cœur. D'ailleurs, c'est un poème qui s'appelle Kyo, donc qui raconte l'histoire d'une fille dans le monde mandarin qui très belle. Et donc, il y a eu beaucoup de déboires parce qu'en fait, vous savez, la doctrine de l'ancien Vietnam disait souvent qu'en fait, le destin se venge sur les gens qui ont trop de talent ou trop de beauté ou des choses comme ça. Donc, ça arrive.
Je ne vais pas vous demander si vous confirmez, sinon on n'est pas couché. Je veux bien l'entendre, le poème, en revanche.
Oui, oui. Donc, c'est un poème de Kyo, donc du grand poète Nguyen Du, qui, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle. Ça, c'est extraordinaire. Donc, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bí sắc tư phong, trời xanh, quen thói, má hồng đánh ghen. Donc, je traduis un peu pour nos auditeurs qui ne parlent pas vietnamien. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est les premiers vers de ce grand poème lyrique de 3000 vers, en fait, et qui raconte donc les aventures de cette femme qui s'appelle Kyo. Et donc, tout de suite, il met en scène, vous voyez, que Chu Tai, Chu Mai, c'est le destin et donc le talent, la beauté s'opposent. Moi, je suis pas du tout d'accord à ça, hein, parce que de temps en temps, le destin favorise aussi la beauté et le talent.
Je ne sais pas si vous êtes papa ou si vous, les histoires de transmission se posent pour vous, mais qu'est-ce que vous transmettez alors, si jamais, à vos enfants? Un poème de Verlaine ou un grand poème de la littérature vietnamienne?
Oui, j'ai pas d'enfant, mais bon, donc...
Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est dur de dire, mais...
Oui. Oh, je pense que c'est de nouveau, je transmettrai les trois langues. Parce que je pense que vous savez, les enfants sont très réceptifs dès le début. Les neurones sont pas encore formés. Vous voyez, donc ils peuvent apprendre trois langues en même temps. Et donc, apprendre les trois langues, c'est une richesse.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous êtes le seul rescapé. Vous rencontrez une créature de l'espace que n'a jamais entendu parler de la France. Que lui dites-vous?
Oui, c'est une très intéressante question. Je donne d'ailleurs souvent ces questions aussi à mes étudiants pour dire ce qu'ils racontent à un extraterrestre qui visite la Terre, hein, pas la France en particulier. Mais la France, je lui dirais, bon, c'est un pays qui a une très longue et très riche histoire, une grande culture. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de philosophes, et aussi une grande tradition gastronomique aussi. Et peut-être j'aime moins la bureaucratie française, peut-être le côté un peu trop râleur de temps en temps, qui n'est jamais content. Mais bon, en général, j'apprécie beaucoup. Hein, donc,
vous avez peur de mon côté râleur, hein, si vous poursuivez. Mais la France, c'est Paris pour vous, hein, j'imagine.
Oui,
que c'est
tout
ça
à fait,
d'abord.
Tout à fait.
J'ai une question. Est-ce que votre Paris à vous, il ressemble un petit peu à ça?
Ah oui, 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 ça c'est un bruit que j'aime beaucoup, c'est le bruit des sabots, des chevaux de la garde républicaine. Et je la vois chaque 14 juillet, bien sûr, vous voyez, à la télévision, et ça m'émeut beaucoup. Le tram, qui est une merveilleuse... Donc de nouveau, je suis content que Bertrand Delanoë a de nouveau fait un tram dans le sud de Paris. Je le prends souvent, d'ailleurs. Mmh. Oui, et puis... Paris en chanson, qui est donc tout... Donc Piaf, oui, ça c'est superbe, bien sûr.
C'est Joséphine Baker, hein, mais...
Joséphine Baker, oui, oui, ça c'est Joséphine Baker, c'est ça, oui, oui.
Ça c'est votre côté américain?
Oui, tout à fait. Oui, Frank Sinatra, I love Paris, bien sûr, oui, 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 bien sûr. C'est l'un de mes chanteurs favoris américains.
Vous avez une vision américaine de Paris, en fait, un petit peu, non?
Un peu. J'aime bien, vous savez, les films de Gene Kelly, Un Américain à Paris, tout ça, c'est vrai. Mais bien sûr aussi, quand le temps que je passe à Paris, aussi je vois les films français, que j'apprécie beaucoup aussi.
Et puis depuis, vous venez embrasser votre maman. Est-ce que ça veut dire que le temps d'un voyage parisien, vous vivez un peu à la vietnamienne de
nouveau ? Tout à fait. Aussi, Paris, pour moi, c'est un peu home, en quelque sorte. Vous voyez, parce que, bon, maintenant, c'est là aux parents. Mais mon père vivait là jusqu'à son décès il y a une dizaine d'années. Et ma mère vit toujours à Paris. Et bien sûr, pour moi, c'est un peu la famille. Ça, et c'est tout à fait vrai.
En préparant l'émission, vous me disiez, vous me confiez, Trinh Xuân Thuan, que vous sentir toujours profondément vietnamien, même au bout de 30 ans d'exil ou plus, voire plus. Et en tout cas, 30 ans d'installation aux États-Unis. Est-ce que, par exemple, la pensée confucianiste est toujours dans votre cœur, en vivant dans une société aussi individualiste que celle des États-Unis ?
Oui, je pense que les valeurs qui me sont inculquées dans mon enfance vont toujours rester avec moi. Donc, j'ai toujours une part de l'éducation confucienne, mais aussi bouddhiste. Je suis profondément bouddhiste, donc je vois le monde à travers un prisme bouddhiste aussi. Bien sûr, l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, etc. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un dialogue de moi avec un moine bouddhiste français qui est Mathieu Ricard, qui a été très riche d'ailleurs, parce que je voulais savoir si la vision de Bouddha qu'il avait du réel quand il atteint l'éveil il y a 2500 ans concordait avec la vue d'un astrophysicien moderne, de la science moderne. Et en fait, à mon grand bonheur, cela concordait.
Vous nous racontez juste avant qu'on écoute Louis Armstrong, votre premier retour au Vietnam, c'était comment ?
Oui, c'était extraordinaire. Vous savez, c'était en 1993 et c'est à l'occasion d'un voyage présidentiel. C'était la première visite d'État du président français.
Vous parlez de notre François Mitterrand ?
Oui, tout à fait. Et donc, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de l'Élysée m'invitant. Et moi, je croyais à une blague d'abord. Et puis, bon, ils ont confirmé après. Et donc, c'était très émouvant d'accompagner le président français. Et puis, donc, le retour sur le sol natal. Donc, voir d'abord ma famille que j'ai pas revue depuis très longtemps. Des cousins et cousines, pas ma famille proche parce que mes parents étaient à Paris. Mais aussi, bien sûr, les grands héros vietnamiens, vous savez, Phan Van Dong, Wong Yuen Zap, le général qui a défait à la fois les Français et les Américains. Donc, non, c'était assez émouvant de retrouver mon pays natal dans ces circonstances.
Bon, preuve que vous êtes devenu une étoile américaine, A Star is Born, ça y est, en son honneur. C'est votre programme musical, puisque à part Strauss et Ravel, qu'on n'a pas eu la possibilité d'écouter, mais vous lui avez rendu hommage au boléro, on sent que vous écoutez beaucoup de musique anglo-saxonne. Louis Armstrong va enfoncer le clou, si j'ose dire, avec What a Wonderful World.
Oui, parce que bon, là, il chante la beauté du monde. Et moi aussi, je découvre la beauté du monde à travers mon télescope.
Vous faites le même métier, quand même.
Oui.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful.
Louis Armstrong en sol majeur et dans les oreilles de Trinh Xuân Thuan, spécialiste mondial des galaxies naines. Ah, ça tombe bien puisqu'on a une toute petite question en sol majeur à lui poser.
À l'approche d'un grand malheur, à qui vous en remettez-vous? À la superstition, à la religion, à la dépression?
Voilà un chant vietnamien, oui. Voilà une prière bouddhique vietnamienne, et donc je vous l'avais deviné, bien sûr. Je m'appuie sur la spiritualité, surtout. Vous savez, pendant cette période très dure où mon père était mis dans un camp où j'étais loin de tout, il n'y avait pas Internet, hein, le courrier mettait des mois à franchir les océans, vous voyez, et c'était très dur en fait. Je ne savais pas si mon père était vivant ou mort. Et donc à ce moment de détresse, je récitais des sutras bouddhiques pour me calmer l'esprit, pour essayer de faire le vide dans mon esprit, la vacuité dont parle Bouddha. Vous voyez, donc le bouddhisme m'aide une profonde, m'aide beaucoup, me donne beaucoup de force.
C'est pratique, oui. Le bouddhisme, si j'ose dire, pour le scientifique que vous êtes, puisque il me semble qu'il n'inclut pas la notion d'un dieu créateur d'univers. Seulement, il y a un problème, c'est que donc il n'y a pas de création. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'univers créé.
Voilà, donc c'est pour le bouddhisme, l'univers a existé de tout temps. Donc il y a eu une série de Big Bang et de Big Crunch. Un Big Crunch, c'est quelque chose qui est l'inverse du Big Bang. Hein. Donc l'univers est en expansion maintenant, vous savez, toutes les galaxies s'éloignent de nous, et puis il y a de plus de vide entre les galaxies, de plus d'espace qui est créé. Mais à un moment donné, c'est un modèle d'univers, hein. L'univers peut atteindre un rayon maximum puis s'effondrer de nouveau sous la force de gravité, et tout va redevenir particules élémentaires et lumière, et c'est un inverse du Big Bang, ce qu'on appelle un Big Crunch, un grand effondrement. Et donc une série de Big Bang et de Big Crunch, donc ça évacue, vous voyez, la question du commencement de l'univers et de fin de l'univers non plus. Donc il n'y a pas de créateur. Donc le seul modèle cosmologique qui est donc compatible avec une vie bouddhiste, l'univers, ce sera un univers cyclique, ce qu'on appelle, qui traverse beaucoup de cycles.
Où voudriez-vous mourir?
Je pense que, bon, vous savez, je n'ai pas d'affection particulière de nouveau. Je me sens vraiment un homme du monde, un homme de la planète, un homme de la Terre, parce que, bon, je regarde la Terre en tant qu'astrophysicien, donc une petite planète, en fait, qui n'a pas de frontières. En fait, je trouve que les pays, les cultures, en fait, érigent des frontières artificielles et qui mènent à la guerre, justement. Donc, moi, je pense que mes cendres seront dispersées dans le cosmos et mes poussières d'étoiles rejoindront le cosmos, je pense.
J'ai mesuré les cieux. Je mesure maintenant les ombres. Mon esprit a exploré le ciel. Mon corps repose aujourd'hui sur la terre.
Oui, c'est Kepler, ça.
Voilà, c'est son épitaphe de l'astronome, oui. Kepler. La vôtre, elle pourrait ressembler à quoi? C'est
Moi,
une question piège.
J'ai pas pensé à mon épitaphe, mais je pense que peut-être il a vécu et contribué à découvrir des choses sur le cosmos et à passer l'information.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et l'info est également sur notre blog, deuxamours.blogs.rfi.fr. On vous y attend avec des pépites et puis des photos des invités enfants. Ça vaut souvent son pesant de noir et blanc. Je ne sais pas si vous avez ramené une photo, Trinxfantoine, on va s'en occuper. Et puis on attend également vos témoignages sur la double culture. Merci à vous.
Ouais. Merci de m'avoir invité.
Mais c'est nous qui sommes honorés de vous avoir reçu. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles vient de paraître aux éditions Plon. Alors pour refermer cet ensol majeur, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous aviez envie d'écouter un certain John Coltrane avec My Favorite Things.
Vous savez, j'aime beaucoup le jazz. Hein. Armstrong était déjà un représentant. Parce que pour moi, le jazz aussi, c'est un peu comment fonctionne la nature, vous voyez. Il y a des lois précises comme un thème principal dans le jazz, mais la nature varie sur ce thème pour créer la complexité et la beauté. Et comme le joueur de jazz, je brode sur un thème principal en fonction de l'inspiration, de la réaction de son audience pour jouer ces magnifiques morceaux.
Merci, Tuan. À bientôt.
À bientôt.
We'll be right back.
Caroline Filliette, Marc Delouvrier, Thomas Ferrière et Yasmine Chouaki. On se retrouve demain, toujours en sol majeur. À demain sur RFI.